Interview.
1 du jour.
Bonjour à tous et à toutes, c'est l'interview du jour sur RDIWA 107.5, 101.7. Et je reçois aujourd'hui Thomas. Salut Thomas.
Salut Amalia.
Comment tu vas aujourd'hui?
Ben ça va bien.
Donc Thomas est le gérant de la ferme aux papillons à Die dans la Drôme. Et Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Comment est-ce qu'on devient un éleveur de papillons?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une recette. Moi, je le suis devenu parce que j'aimais les plantes à l'origine, la botanique en général, la botanique tropicale. Mais les débouchés étaient assez limités dans ce domaine. Et j'ai découvert les fermes aux papillons et les chenilles qui mangent des plantes spécifiques, en particulier tropicales, pour les espèces tropicales. Et je suis passé en gros de la botanique aux papillons.
Tu es botaniste de formation?
De formation, non. J'ai un master de biologie, mais qui n'est pas spécialisé en botanique, ni d'ailleurs en entomologie. Mais c'est au cours de mes études que j'ai découvert les papillons, et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué. Mais du coup, j'ai pas vraiment de diplôme spécifique en botanique.
D'accord. Tu as un master en biologie?
Oui, général.
Et après, tu as étudié les plantes?
Et après, ben, par goût et puis par nécessité pour pouvoir élever, j'ai étudié beaucoup plus la botanique, oui.
Donc votre métier, ça consiste surtout à nourrir des chenilles?
Nourrir des chenilles, oui. Et puis s'occuper des plantes, parce que finalement, on pense beaucoup aux papillons, forcément, c'est plus le sujet. Mais en réalité, le gros du travail, c'est plus les plantes que les chenilles ou les papillons.
Alors, à ce sujet, à combien vous avez de plantes, du coup, pour pouvoir nourrir les papillons, en fait? Est-ce qu'il y a aussi d'autres types de plantes?
Alors, on n'a pas recensé, je ne peux pas vous dire exactement combien on en a. On a de nombreuses espèces. Rien que pour nourrir les chenilles, je pense qu'on a une bonne cinquantaine d'espèces de plantes. Et puis après, il y a toutes les autres. C'est-à-dire que pour que les papillons, spécialement les adultes, soient bien, il faut aussi des plantes nectarifères, c'est-à-dire des plantes qui fleurissent, qui produisent du nectar pour nourrir les papillons. Tous les papillons ne se nourrissent pas de nectar, mais il y en a une grosse majorité. Et puis, on a aussi des plantes qui servent au décor, parce que les papillons, si vous les mettez dans une pièce nue, ils sont très très mal, ils sont extrêmement stressés, il faut vraiment un décor. Et donc, il y a des plantes qui sont là uniquement pour les sécuriser, qui puissent se cacher sous les feuilles, voilà. Simplement être dans un décor qui ressemble un peu au milieu naturel, quoi. Voilà.
Donc du coup, donc Thomas, t'es le gérant de la ferme papillon à Die. Comment est-ce que t'as conçu l'espace de la ferme papillon?
Alors, l'espace visitable.
Ouais, tout à fait. Oui. L'espace visitable dans un premier temps.
Oui, alors l'espace visitable, en fait, il est, en évolution permanente. La ferme existait avant que j'arrive. Je suis arrivé en 2013. Et donc, on a adapté les espaces progressivement en fonction de ce qui existait déjà et ce vers quoi on voulait aller. Voilà. Mais ça se fait vraiment très progressivement. Donc, comment c'est pensé? Comparé par rapport aux autres fermes aux papillons, la majorité en tout cas, on a essayé d'avoir des espaces séparés, c'est-à-dire ne pas tout voir d'un coup. Parce que très souvent, quand on rentre dans une serre pour les papillons, il y a un très grand espace de vol, mais on voit tous les papillons d'un coup et on voit tout le décor d'un coup. Après, on se balade à l'intérieur. Mais là, nous, l'idée, c'est surtout que la serre n'est pas très très haute, ce qui nous permet aussi de faire ça, de faire vraiment des espaces différents et de pouvoir se perdre un petit peu au cours du parcours. C'est vraiment ça l'idée.
Et ça après, laisse une sorte de suspense.
Voilà, c'est ça, ne pas tout voir. Et alors ça, c'est vraiment ce à quoi on veut aboutir à terme, c'est-à-dire ne pas avoir les mêmes espèces dans tous les espaces, mais pouvoir vraiment régionaliser, de façon à ce que les gens découvrent les espèces les unes après les autres, quoi.
Voilà. Donc il y a un petit parcours avec des flèches.
Voilà, il y a un parcours. Et avec différentes choses. Après, l'idée à terme sera de présenter aussi la biologie des papillons, les différents aspects de leur vie, de leur cycle. Et donc, on utilisera les différents espaces pour traiter à chaque fois d'un aspect en particulier, que les gens puissent s'attarder plus là-dessus avant de passer au suivant, quoi.
Oui, vous voulez clarifier ce que c'est qu'un papillon pour les visiteurs.
Oui, c'est ça. Mm-mm. Et donc, ça suppose d'expliquer vraiment énormément de choses. Donc, c'est bien de pouvoir séparer un peu les informations. Et voilà, ça, ça se fera au cours du parcours.
Mais oui, donc j'entends que dans ton métier, il y a aussi un volet très pédagogique.
Oui, ouais, bah, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est vraiment ce qui est important de la partie visible. Après, nous, on a toute la partie qui nous concerne, nous, de l'élevage strictement, et puis de la recherche. Mais la partie visible, oui, il faut que ce soit vraiment pédagogique au maximum.
Mm. Ah oui, bah, sujet, c'est quoi un papillon ?
Un papillon, c'est un insecte, de l'ordre des lépidoptères. Qu'est-ce qu'il définit ? Je ne saurais pas trop... En fait, c'est des insectes qui ont des écailles sur les ailes. C'est ça le critère déterminant. Après, il y a plein d'autres choses. La larve, il y a une métamorphose, puisque la larve et l'adulte n'ont pas du tout le même milieu de vie. Et donc, ça suppose de... Enfin, nous, en tout cas pour nous, de pouvoir gérer à la fois les besoins des larves et les besoins des adultes qui sont complètement différents.
Oui, donc du coup, il y a un autre espace de travail, d'élevage, de nourrissage.
Il y a toute une partie qui n'est pas visible. C'est une autre serre dans laquelle on fait l'élevage des papillons. Alors, il y a certaines espèces qu'on ne peut pas encore élever. On développe de plus en plus la diversité des espèces qu'on élève. Mais il y en a quand même vraiment un bon nombre. Et là, en saison, en pleine saison, on va dire qu'il y a au moins 80%, 90% parfois des papillons qu'on voit dans la serre qui sont élevés directement sur place. Donc, ce qui suppose d'avoir de grands espaces pour les plantes nourricières des chenilles et puis les adultes reproducteurs.
Alors, combien d'espèces vous élevez là pour l'instant ?
Alors, c'est un petit peu variable. Il y a trois type d'élevage, on va dire, en fonction de la saison. Y a des espèces qu'on n'élève pas du tout, parce que soit on n'a pas encore les plantes nourricières. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque espèce de papillon a une ou quelques plantes nourricières pour ses chenilles. C'est vraiment pas n'importe quelle plante. Donc ça suppose d'avoir les plantes. Si les plantes ne sont pas là, le papillon ne peut pas se reproduire. Donc il y a des papillons pour lesquels on n'a pas encore les plantes. Il y en a de moins en moins. Il y a des papillons pour lesquels on a les plantes, mais qui pour l'instant ne sont pas suffisamment développés, parce que les chenilles mangent énormément. Et donc, il faut que la plante puisse se régénérer correctement une fois qu'elle a été broutée, quoi. Donc là, pour l'instant, il y en a qu'on laisse tranquille et on ne fait pas encore d'élevage dessus.
Et à ce sujet, alors tu disais à terme, tu parlais d'un projet à terme d'élever complètement vos espèces ?
Oui. Ouais, à ce moment-là, on montrait à une quarantaine d'espèces. Donc là, je dis, voilà, il y a une quinzaine d'espèces qu'on peut élever en permanence. Après, il y en a d'autres qu'on élève en saison uniquement. Et sur l'ensemble des espèces qui ont été élevées à la serre, je dirais qu'on est à une quarantaine, 40, ouais, un peu plus de 40 à peu près, quoi.
Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter dans ton parcours d'éleveur de papillons particulière qui t'a marqué, une anecdote positive ou négative, spontanément ?
Oh, j'en ai beaucoup. peut-être une très récente illustration des problèmes qu'on peut rencontrer. En prévision de l'hiver, généralement, on limite la quantité de papillons qu'on élève, la quantité de chenilles qu'on élève, pour ne pas trop consommer les plantes et qu'elles puissent survivre à l'hiver. Donc on diminue énormément nos élevages. Et il y a toujours ce moment où on n'est pas certain de la quantité qu'on doit garder. Et là, par exemple, sur une espèce, là, très récemment, c'est en cours d'ailleurs, on a gardé 16 chenilles, ce qui semble largement suffisant pour avoir un sexe ratio à peu près équilibré, parce que bien entendu, chez les papillons, il y a mâle et femelle, donc il faut avoir les deux.
Du coup, il y avait 8... Les chenilles ont déjà un sexe ?
Les chenilles ont déjà un sexe, mais c'est pas visible au stade de chenille. Et donc, on a obtenu 16 chrysalides. Et les 16 chrysalides étaient des chrysalides femelles. Donc, on a perdu une souche. Alors que normalement, avec 16 chrysalides, statistiquement, c'était tout à fait logique qu'on ait les deux sexes. Voilà. Et donc, c'est juste une illustration des problèmes qu'on peut rencontrer, qui sont multiples, vraiment complexes. Il y en a à tous les niveaux. Et pour être éleveur de papillons, il faut vraiment être patient, très patient et très résilient. Parce que, voilà.
Donc, c'est un métier où il faut savoir s'adapter, être flexible et être
permanence.
Très patient.
Et est-ce en plus, il faut vraiment retenir qu'il n'existe pas de matériel, pas de technique, absolument rien. Donc, il faut tout inventer au fur et à mesure. Et ce n'est pas le plus facile.
Tu travailles avec du vivant ?
Oui, ouais. Oui, mais sachant que les élevages en général, il existe déjà des techniques, il existe déjà du matériel. Généralement, les papillons sont plus vus, en tout cas leurs chenilles, comme des nuisibles que comme des animaux à favoriser. Et donc, il existe beaucoup de solutions pour détruire les papillons, mais par contre, pour les élever, aucune. Donc, il faut vraiment s'adapter.
Est-ce que tu as un papillon préféré ?
Ah, c'est une question qu'on me pose souvent. j'en ai plusieurs, c'est vraiment difficile de dire. En général, les gens qui ne connaissent pas du tout les papillons préfèrent les papillons qui se voient le plus, donc les morphos par exemple, les gros papillons bleus métalliques qu'on voit en premier quand on arrive. C'est pas mes préférés, parce qu'au bout d'un moment, on a vraiment l'habitude de les voir, et puis c'est aussi une question de comportement, c'est pas que la beauté du papillon en elle-même, quoi. Il y a des papillons qui ont un comportement vraiment très sympathique, et on s'y attache beaucoup plus. Le Greta Auto, par exemple, le papillon aux ailes transparentes, a un comportement qui est vraiment très très chouette, et je l'aime beaucoup. Et après, généralement, c'est plus du vécu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il y a un papillon qui nous plaît, parce qu'on l'a beaucoup vu dans une période en particulier, on l'a associé à ça, et voilà, il nous plaît particulièrement, mais on ne saurait pas dire spécialement pourquoi.
De comportement, donc les papillons, tu as noté des différences de comportement chez, chez des insectes.
Ah oui, très net. Ça, c'est fondamental.
C'est incroyable.
Un papillon n'est pas égal à un autre papillon, ça, c'est très net.
Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît autant donc, visuellement, esthétiquement, et aussi, du coup, dans quelque chose de plus subtil, comme justement le comportement ?
Alors, il y a beaucoup de choses. Les Greta Auto, c'est des itomides. C'est un groupe de papillons particuliers dont la biologie est très complexe et très intéressante. Donc c'est aussi pour ça que ça me plaît énormément, outre le fait qu'il a un petit vol léger qui est vraiment très, très chouette, et puis il a tendance à s'agglutiner, donc ils se mettent tous ensemble à un endroit. Mais c'est des papillons qui ont notamment besoin de certaines molécules pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir faire leurs phéromones. Des molécules qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes, mais dont ils trouvent les précurseurs dans certains végétaux. Donc pour pouvoir se reproduire, ils sont obligés d'aller sur ces végétaux, généralement qui sont un peu desséchés, et ils vont chercher ces molécules spécifiquement. Donc autant dans la serre que dans la nature, on peut voir des regroupements de plusieurs milliers de papillons au même endroit, qui sont tous en train de récupérer ce qu'il faut pour faire leurs phéromones. C'est que les mâles, parce que les femelles ne le font pas, évidemment, elles n'ont pas besoin. Mais du coup, c'est assez complexe. La reproduction n'est pas facile à obtenir, il faut vraiment du temps, et il faut que la femelle sente qu'il y a suffisamment de phéromones. Et c'est aussi associé au fait que ces papillons mangent des solanacées, donc des plantes qui contiennent beaucoup de molécules toxiques et sont eux-mêmes toxiques. Et il faut que le mâle prouve à la femelle qu'il a suffisamment de toxines à lui transmettre pour qu'elle puisse elle-même immuniser ses œufs.
Voilà. Pour qu'ils se défendent dans la nature après.
Ben, pour qu'ils ne soient pas consommés par les prédateurs. Voilà. Et donc c'est vraiment un comportement au niveau de la reproduction qui est très complexe et très intéressant à étudier.
On parlait de pédagogie. La ferme papillon, c'est un espace surtout ludique. Mais est-ce qu'il y a un volet sensibilisation à l'environnement, un axe pédagogique qui va dans ce sens-là ?
Alors, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Là, pour l'instant, on en parle beaucoup. Mais encore une fois, ça, il faut le faire vraiment intelligemment. Parce qu'il existe une communication en kit, j'ai envie de dire, conventionnelle, que tout le monde fait dans tous les établissements qui présentent des animaux sauvages, qui n'est pas forcément celle qu'on cherche à véhiculer. Voilà. Et donc on cherche vraiment la meilleure façon de faire passer les choses. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il y a une grande méconnaissance concernant les papillons. Il y a des gens qui pensent que c'est à cause des chasseurs de papillons, qu'il n'y a plus beaucoup de papillons. Il y a des choses comme ça, des idées comme ça qui traînent. Alors après, on pense qu'on veut de la chasse aux papillons, mais c'est vraiment pas ça l'aspect fondamental. Et la protection, par exemple, pour les papillons, a été faite de la même façon que pour les mammifères. C'est-à-dire qu'on on protège l'animal. Point. Sa plante peut disparaître. Si c'est le cas, il va disparaître aussi, mais c'est un autre problème. On protège le papillon. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'un papillon, ça peut pondre, on va dire, de 200 à 2000 œufs, pour faire vite. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas l'individu qui est important. C'est vraiment la plante et le milieu de vie. Donc c'est ça qu'il faut vraiment protéger. Donc on est en train de mettre en place et essayer de communiquer là-dessus. Le fait qu'il y ait moins de papillons, c'est bien entendu lié aux pesticides et à tout ce qu'on connaît déjà pour plein d'autres animaux. Mais spécifiquement pour les papillons, il faut vraiment retenir que chaque papillon a sa plante et que si la plante disparaît, le papillon ne peut pas se reproduire du tout. Donc c'est vraiment fondamental de garder les plantes en abondance suffisante pour les papillons. Sinon, voilà, ils disparaissent.
Tu fais le lien entre papillon et écosystème. C'est quoi un papillon dans un écosystème ?
Ouais, c'est...
Et en fait, c'est l'écosystème qu'il faut protéger.
Oui, ouais. Là, c'est vraiment net, parce que on le sait déjà pour les autres insectes et pour les autres animaux, de manière générale. Mais pour les papillons, c'est très net. Si la femelle ne trouve pas la bonne plante, elle pond pas. Donc le papillon disparaît, vraiment. Donc là, c'est un effet immédiat, direct. S'il n'y a pas les plantes, il n'y a pas les papillons.
C'est une chaîne, et en fait, le papillon, c'est un rouage dans la chaîne. Et s'il n'y a pas ce rouage, ça coupe la chaîne.
Ouais, dans la chaîne alimentaire, ils sont fondamentaux.
Alors, pourquoi ils sont aussi colorés ?
Grande question. Alors là, j'ai pas vraiment de réponse. Il y a beaucoup de théories, mais c'est très difficile à vérifier.
Est-ce qu'ils auraient un rôle esthétique ?
On peut le penser.
Pour les humains, peut-être.
Oui, après, on peut penser que c'est pas tout fait pour nous non plus. Mais oui, ça nous plaît énormément. Après, quel est le rôle particulier, il faut vraiment retenir qu'un papillon, c'est très vulnérable, ça a énormément de prédateurs, et le fait d'être coloré, c'est plutôt un handicap, parce que ça les fait repérer beaucoup plus rapidement par les prédateurs, par les oiseaux notamment. Donc s'ils sont colorés, c'est que ça a vraiment un rôle fondamental pour eux, mais lequel, ça honnêtement, je ne saurais pas dire.
C'est une recherche, par exemple, le papillon bleu qui plaît à tout le monde.
Oui.
Quel handicap énorme finalement.
Oui, ouais.
En plus, il est grand.
Alors, il existe une théorie du handicap. C'est complexe. C'est un peu complexe. En gros, un mâle, c'est la femelle qui accepte ou non l'accouplement. Donc, ça veut dire que la femelle va, en gros, avoir le choix du mâle. Et le mâle doit prouver à la femelle qu'il a des gènes vraiment intéressants pour la survie. Et c'est difficile, parce que les mâles, il y en a beaucoup qui se mettent en avant, qui disent qu'ils sont très forts, et ce n'est pas forcément le cas. Et donc, une chose qui ne trompe pas, c'est que si un mâle est handicapé par une chose ou une autre, mais qu'il est encore vivant, ça veut dire qu'il a des gènes vraiment intéressants pour sa survie. Voilà. Et donc, la théorie du handicap, c'est un peu ça. C'est-à-dire, les mâles les plus colorés sont les mâles qui ont le moins de chances de survie dans la nature. Donc, s'ils sont effectivement encore vivants et qu'ils sont capables de courtiser une femelle, c'est qu'ils ont vraiment des gènes intéressants à côté de ça.
Ils ont trouvé des stratégies pour s'adapter malgré cet handicap.
Voilà. Ils ont vraiment les bons gènes. Ouais. C'est une théorie.
Parce qu'on parle souvent des abeilles et il y a beaucoup de sensibilisation autour des abeilles et les gens se sentent très concernés.
Oui.
C'est vrai qu'on a l'impression que les gens se sentent moins concernés par la disparition des papillons, peut-être parce qu'ils sont...
Oui, peut-être parce qu'on en parle moins déjà, parce que les abeilles, ça nous touche plus directement. Donc voilà. Et puis, il faut reconnaître que les abeilles ont un rôle dans la pollinisation qui est beaucoup plus important que les papillons, qui sont aussi des pollinisateurs, mais moins efficaces ou en tout cas plus spécialisés. Après, il faut retenir que... les papillons, s'il fallait leur trouver un rôle principal, ce ne serait pas celui auquel on pense en premier, ce serait de servir de nourriture à un très grand nombre d'autres animaux. Et donc, si les papillons disparaissent, peut-être que les plantes pourront encore être pollinisées correctement. Mais par contre, il y a beaucoup d'animaux qui vont disparaître aussi, parce qu'ils n'ont plus leur nourriture. Les oiseaux, notamment. Il y a les mésanges en hiver qui mangent énormément de chenilles. S'il n'y a pas de chenilles, il n'y aura pas de mésanges.
Est-ce que tu as observé, enfin, et vous, à la ferme Papillon, hein, est-ce que vous avez observé ces dernières années des changements dans votre travail en lien avec le changement climatique ?
Alors, c'est non, parce que il y en a très certainement, mais il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup d'aléas dans notre métier, et du coup, pouvoir savoir ce qui vient de l'aléa, ou en tout cas de... X raisons qu'on ne connaît pas, et ce qui vient strictement du changement climatique, ça c'est vraiment très très difficile à notre échelle. Donc on ne peut pas trop le voir. Tout ce qu'on peut constater, c'est que évidemment les hivers plus doux sont plutôt favorables à notre activité, puisque évidemment pour des papillons tropicaux, c'est plus facile quand il fait moins froid. Mais bon, voilà, c'est pas.
Donc finalement, le changement climatique pour la ferme papillon n'est pas que négatif.
N'est pas que négatif, mais je préférerais.
Est-ce que tu pourrais me raconter une autre anecdote et peut-être une anecdote avec les visiteurs, par exemple ?
Ah, il se passe plein de choses en permanence.
Mais oui.
C'est difficile de dire. Mais ce que je constate, c'est pas une anecdote, mais ce que je constate, c'est la grande méconnaissance des gens. Et surtout, le fait que les gens veulent toujours voir des parallèles entre les papillons et eux. Et en fait, c'est vraiment des animaux extrêmement différents de nous. Et je pense que c'est ça qui étonne le plus des gens. Si, par exemple, un papillon est dans l'eau, la tête dans l'eau, il ne va pas mourir, parce qu'il ne respire pas par la bouche. Et juste une anecdote, hein, mais vraiment, c'est extrêmement différent de nous. Et il ne faut vraiment pas chercher forcément à faire des parallèles entre leur vie et la nôtre.
Mais tu constates que les gens, ils font des espèces d'analogies ou ils font des liens entre notre façon de fonctionner à nous, les humains, et la façon de fonctionner des papillons. Ils font ça avec les arbres aussi, parfois.
Oui, oui, probablement. Non, mais après, on peut voir, il y a des principes généraux qui régissent la vie, on va dire. Et ceux-là sont immuables. Et, vraiment. Et puis, c'est intéressant aussi de faire des analogies, je pense. Voilà. Aussi sur un plan philosophique, on va dire.
C'est vrai que sur un plan philosophique, la théorie du handicap, par exemple, c'est très intéressant.
Oui. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment retenir que leur biologie et leurs besoins sont extrêmement différents des nôtres.
En fait, un éleveur de papillons, c'est quelqu'un qui observe les écosystèmes et qui prend soin des écosystèmes.
En tout cas, qui doit les connaître. Oui, ça c'est vraiment fondamental. Il y a, si, la qualité première, on va dire, c'est vraiment l'observation. C'est indispensable de pouvoir observer pour comprendre ce qui se passe. Et parfois, c'est vraiment minuscule. Parfois, c'est très gros, mais tellement gros que on ne le constate pas non plus. C'est vraiment, il faut, à toutes les échelles, il faut vraiment observer au maximum. Et savoir aussi que tout ce qu'on croit savoir, il faut toujours le remettre en question. Il y a vraiment, on découvre en permanence, quoi.
Donc, tu as envie de continuer à faire ce métier, Thomas ?
Moi, si je pouvais, jusqu'à la fin.
Mais alors, en dehors de ton travail, est-ce que tu as une famille ?
Oui. Oui, j'ai une famille. J'ai deux enfants, 10 mois, nés à 10, avant que la maternité ne m'arrête.
Ne se ferme.
Voilà. Et il faut pouvoir jongler entre les deux, parce que c'est un travail qui est vraiment très, très prenant. Comme je disais, il faut y être au minimum une fois tous les jours.
Même en hiver.
Même en hiver, toute l'année. Et c'est très prenant. Donc, il faut vraiment pouvoir... jongler entre les deux, quoi. Être présent.
Thomas, est-ce que tu as un film ou un dessert préféré?
Un film préféré, oh là là, oh là là là.
Je dirais même un film et un dessert préféré. Et un dessert préféré devant un film.
Quand j'ai le choix, je prends systématiquement un tiramisu. De là à dire que c'est mon dessert préféré, j'en sais rien, je ne saurais pas.
On va arriver à la fin de cette interview. Je te remercie vraiment d'être venu.
Avec plaisir.
Donc, je rappelle à toutes et à tous que la ferme aux papillons est située route de Gap, quartier du Plot, 2650 10, et que le numéro de téléphone est sur la page internet. Je le redis ici, 06 43 60 23 88. La ferme aux papillons, 06 43 60 23 88. On peut également les contacter par mail. Et puis, l'ouverture de la prochaine saison sera en avril 2026.
C'est ça.
Et
pour les vacances d'avril. Donc,
voilà, pour les vacances d'avril. Et ce, jusqu'à fin septembre, vous fermez à fin septembre ?
Ce sera début septembre, mi-septembre, on ne sait pas encore précisément, mais voilà, après les vacances d'été.
Et en plus, il y a des tarifs intéressants, c'est 8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants, 6,50 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi, et c'est gratuit pour les chauffeurs de groupe et les enfants de moins de 4 ans, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça.
Thomas, merci beaucoup. Thomas nous a choisi une musique, comme il nous l'a dit, il est aussi musicien à ses heures perdues. C'est une autre de ses passions. Il nous a choisi une musique qui s'appelle Ma mère Loi, c'est ça ?
Ma mère Loi, on dit Ma mère Loi, mais oui, c'est
ça. Ma mère Loi de Ravel. Merci beaucoup Thomas et à bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.